affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Le 11 décembre dernier, la cinéaste Colline Serrault était officiellement installée à l'Académie des Beaux-Arts, dans la section des créations artistiques dans le cinéma et l'audiovisuel, au fauteuil précédemment occupé par Pierre Schoendoerfer. Depuis, la France a été, comme on le sait, frappée par l'épidémie de Covid-19, si bien que nous n'avons pas eu le temps de faire connaissance avec cette nouvelle académicienne. Mais l'occasion nous est maintenant donnée de réparer cette lacune et de mieux découvrir la femme qui nous avait enchanté avec notamment les films cultes que sont devenus « Trois hommes et un couffin »,« La crise » ou encore « La belle verte ». En effet, voici quelques mois, Colline Serrault a également publié un ouvrage singulier fait de fragments de biographie familiale, de souvenirs, d'extraits de scénarios, de discours, de prises de position et surtout d'hommages. Titré « Hashtag Colline Serrault », cet ouvrage publié par Actes Sud est une invitation à la libre conversation et c'est bien ainsi que nous concevons cette émission car il aurait été impossible de procéder autrement avec une femme aussi libre. Madame, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation à converser.
Bonjour.
Pour commencer, j'évoquais votre installation à l'Académie des Beaux-Arts. Vous n'avez pas pu en faire part dans votre ouvrage car il est paru juste avant cette installation. Pouvez-vous nous confier la façon dont vous avez vécu cet événement ?
L'installation elle-même ou l'élection, enfin, les deux, de toute façon, c'est pareil. C'est-à-dire que j'ai été très, très heureuse, très touchée d'être demandée à l'Académie pour plein de raisons. D'abord parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes à l'Académie. Donc, c'était aussi important qu'on reconnaisse qu'il y a des femmes. C'était important aussi d'être parmi les cinéastes parce que je crois que les cinéastes ne sont pas. On connaît mal le métier de cinéaste, on ne connaît pas assez, on ne connaît pas l'étendue des compétences que ça demande. Et j'étais contente de pouvoir faire partie d'un groupe de cinéastes, un groupe fort qui représente les arts à l'Académie des Beaux-Arts. Parce que et j'aimerais beaucoup d'ailleurs à l'Académie plus parler de notre métier parce que les gens ne le connaissent pas, ce métier. Bon, il y a ça qui m'a fait plaisir. Je ne suis pas très sensible aux honneurs, sinon que les honneurs, ça ne se demande pas, mais ça ne se refuse pas et ça s'accepte avec gratitude. Voilà. Alors ensuite, l'installation elle-même a été très, très perturbée parce qu'il y avait des grèves, il y avait des tas de gens n'ont pas pu venir, d'autres ont pu venir. En tout cas, c'était toute une réunion de copains et de gens que j'aime beaucoup, plus les académiciens que j'ai appris à connaître au fur et à mesure, parce que on s'installe toujours plus longtemps après l'élection, et donc on a eu le temps de connaître un peu et de voir et de discuter tous les mercredis, parce que je suis assez assidue, les autres collègues, et donc c'était très, très joyeux. Je suis, comme vous le savez, pas du tout quelqu'un de comment dire, je n'aime pas les conventions, mais en même temps je m'y suis pliée, en biaisant un petit peu. J'avais une broche qui représentait un amour au lieu d'une épée, j'avais un costume qui avait été fait avec une costumière de l'opéra qui est formidable et qui avait à la fois brodé, fait des pochoirs, qui était quelque chose d'artistique, ou en tout cas qui représentait les métiers de nos métiers qui sont le théâtre, l'opéra et le cinéma, parce que j'appartiens à tout cet univers. Et puis le plus important, c'était les deux discours, le discours de Gal, qui est un ami et qui a fait un discours d'une gentillesse et d'une profondeur et d'une très très grande, beaucoup d'humour aussi, et puis qui a une espèce il semble un petit peu désinvolte, mais il est très profond. Hugues est très très cultivé, un puits de culture. Et puis il y avait aussi Régis Campo, le compositeur que j'adore et qui m'a donné, qui m'a reçu et qui m'a donné ma broche que j'ai accrochée sur mon costume, etc. Et qui a fait un discours adorable aussi. Puis moi, j'ai fait un discours sur Schoendorfer que j'aime beaucoup, avec des divergences politiques énormes, mais que j'admire et que j'ai pu dire toute la dialectique de mon rapport à ce cinéaste qui est un grand cinéaste. Voilà. Donc c'était plutôt un moment assez joyeux. Après, on a le temps de discuter avec les copains, avec tout le monde. Il y a aussi l'espèce de cérémonial avec la garde qui est assez beau.
En tout cas, il y a quelque chose qui doit vous plaire, je pense, dans l'esprit même des académies, c'est cette volonté de transmission que j'ai également retrouvée dans votre ouvrage. Une soif de transmettre très importante.
Oui, transmettre ce qui... Oui, ils s'occupent. Et puis alors, l'Académie des Beaux-Arts, c'est particulier parce que ce sont des faiseurs, ce sont des gens qui fabriquent, qui font, qui sont aussi avec les mains, avec le corps. C'est moins cérébral que l'Académie française. Et c'est, moi, je me reconnais dans ces gens-là, qui sont des penseurs aussi, et qui pensent très bien, mais qui sont des faiseurs aussi. Donc, il y a tout un côté artisanal aussi dans le métier, dans le mien. Et je me sens très, très proche des peintres, des musiciens, des sculpteurs. Ça a été les origines de ma famille. Quand vous parlez de transmission, je ne sais pas si... C'est pas exactement. C'est s'occuper de nos métiers. C'est politiquement s'occuper dans la République de quelle place ils ont, quelles sont les questions qu'on se pose comme créateurs dans la cité. C'est plutôt ça qui me touche pour l'instant de ce que je vis à l'Académie.
Toujours est-il que votre ouvrage, et ce n'est pas banal dans une société qui est quand même marquée par un certain présentéisme, c'est pas un beau mot, mais il dit bien ce qu'il veut dire, de commencer votre ouvrage hashtag Colline Serrault par une section assez longue, un tiers du livre, sur l'héritage. On a vraiment le sentiment que vous êtes présenté comme une héritière. Or, aujourd'hui, les gens se présentent plutôt comme des architectes d'eux-mêmes, des entrepreneurs de leur propre vie. Vous avez utilisé le mot gratitude tout à l'heure. Je pense que le livre entier, au-delà même de cette section, est un livre de gratitude.
Ah oui, c'est dans ce sens-là que vous parliez de transmission. En effet, c'est un peu une espèce de défaut, enfin, en tout cas de maladie de cette époque, d'avoir un quart d'heure de mémoire et surtout de ne pas comprendre d'où on vient et ne pas vouloir le voir. Et même par exemple, si, moi j'ai beaucoup lutté pour que le monde paysan et le monde de l'alimentation soient reconnus pour ce qu'il est. Et c'est vrai que, par exemple, si on prend, même le sens qu'un cochon ou une tomate ou une pomme de terre, nous ne pouvons les manger que parce que toute une chaîne de paysans, depuis des siècles, les ont travaillés, améliorés et nous les ont transmis. Nous n'existons que parce que les paysans nous ont nourris et parce que d'autres gens nous ont permis de habiter quelque part, nous ont transmis des techniques. Voilà. C'est sûr que cette espèce de sentiment d'appartenir à une longue chaîne et qui va continuer, c'est très très important pour moi, mais je pense que c'est important en ce moment dans cette société où effectivement on a une génération qui est née avec l'informatique et qui pense que avant l'informatique c'était l'âge des cavernes. Mais l'âge des cavernes, c'est peut-être pas si mal. Hein. L'âge des cavernes, on en vient, quoi. Si eux, ils n'avaient pas survécu, comment on ferait, nous? Donc il y a cette espèce de simili-cassure entre ceux qui sont nés avec l'informatique et ceux qui sont nés avant, et qui est une fausse cassure. La technologie n'est pas l'humanité. La technologie est un moyen que se donne l'humanité pour appréhender le monde, pour communiquer avec les autres. Mais le centre, c'est l'humain, c'est pas la technologie.
Vous faites une analogie entre... Vous ne faites pas cette analogie, mais elle nous saute à l'esprit. Vous êtes une femme, une artiste, une femme de culture, et vos premiers mots sont pour la culture des paysans. Est-ce que c'est une analogie qui vous plaît ?
Oui, la culture, c'est d'abord l'agriculture. Hein. C'est comme ça qu'est née la culture. C'est une grande étape dans l'humanité que le moment où on s'arrête d'être nomade, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs... ce qui est aussi le début des problèmes. Et on commence à cultiver, et en cultivant, on se cultive, et c'est pas du tout un hasard que ce soit le même mot, que la culture est totalement issue de l'agriculture. C'est aussi une manière de dire que il y a une égalité totale, à mon avis, dans les activités humaines. Je pense pas que la culture, bon, pourtant je suis un pur produit, et qui est vraiment à la fois mon moyen de vivre et mon moyen de vivre bien et heureuse, je ne pense pas que la culture soit au-dessus de quoi que ce soit d'autre comme activité humaine. C'est une activité humaine parmi les autres, l'agriculture ou l'artisanat ou la technologie ou la science ou la philosophie sont d'autres manières qu'à l'humain de vivre dans ce monde. Mais la culture n'est pas au-dessus et je pense que tout ce qui dans nos pensées, a tendance à hiérarchiser soit les humains, soit leurs activités, est quelque chose qui va produire à un moment ou à un autre des gros problèmes. D'ailleurs, on voit bien que le patriarcat, par exemple, qui est vraiment la première et grande manière de hiérarchiser les humains, est une catastrophe nucléaire, quoi.
Revenons à votre. Parler de culture, c'est aussi de parler de racines. Cette première partie est consacrée aux racines familiales. Là encore, ce n'est pas une façon très contemporaine d'aborder son identité. On a l'impression que pour être libre aujourd'hui, il faudrait se délester de ses racines familiales, de son histoire, de ses aïeux. Vous remontez assez loin, jusqu'à votre arrière-grand-mère. Aujourd'hui, c'est énorme. Je pense que dans les sociétés traditionnelles ou archaïques, on remontait beaucoup plus loin encore, mais peut-être avez-vous fait un choix aussi.
C'est-à-dire qu'après, je connais pas non plus. Je sais qu'on descend des Bernoulli, ça je sais, on descend des mathématiciens Bernoulli. Et puis, d'un côté, parce qu'il y a plein d'origines dans un humain, après ça se croise de tous les côtés. C'est la plus ancienne que je connaisse, mais c'est quand vous dites qu'on a des racines beaucoup plus anciennes, c'est très beau dans la culture indienne. Les Indiens d'Amérique, c'est vraiment le sentiment qu'on descend avec, qu'on descend aussi des animaux, qu'on est lié à la nature et aux animaux. Donc, moi, je suis modestement remontée jusque, disons, à la moitié du XVIIe siècle, mais c'est pas très très loin, quoi. Mais c'est vrai qu'aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le sentiment d'une transmission. Ça donne un sens à ce qu'on est et ça donne une modestie aussi de ce qu'on est. C'est-à-dire que, toujours la même chose, on n'existe que parce que d'autres nous ont permis d'exister. Ils nous ont donné ce qu'ils nous ont donné, qu'on ne voit même plus. On ne voit même plus que, je vous dis, pour la tomate, on ne voit même plus qu'est-ce qu'il a fallu comme compétence pour construire une cathédrale. Je ne suis pas tellement religieuse, moi. Mais quand je vois ça, qu'ils ont fait ça sans énergie et que l'énergie, bon, il y a eu certainement des morts et des tas de dommages collatéraux, mais il y a des choses qu'on ne voit plus de ce que les autres ont fait pour nous. Et pourquoi on est là, quoi? Comment on peut encore être là? J'ai l'impression de radoter là. Je viens de.
Pas du tout. Alors, poussons un peu sur cette histoire familiale, car. Je veux bien croire qu'il n'y ait initialement qu'un élan de gratitude, la volonté d'arracher à l'oubli ces aïeux à qui vous reconnaissez devoir des choses et peut-être même une vision du monde. Mais si vous l'avez fait, écrit dans un livre publié, édité, c'est probablement pour nous dire quelque chose aussi. Ces vies oui. ont quelque chose à dire.
Ah oui, mais toutes les vies ont quelque chose à dire. Moi, c'est celle que je connais, donc je parle de celle que je connais. Par exemple, la première, c'est vraiment l'exemple type d'un choix. Elle a dû choisir entre un amour et ses enfants. Elle a fini par choisir ses enfants, elle a abandonné un de ses enfants. C'est une situation totalement inhumaine. C'est aussi pour montrer cela que je l'ai raconté, parce que cette situation n'existerait plus maintenant. Mais sur ces douleurs-là, sur ces grandes déchirures-là, toute l'œuvre de Balzac, par exemple, le raconte aussi. Ces choix qui sont inhumains, pour moi, de les montrer tels qu'ils sont, c'est la dénonciation du patriarcat. aussi, ça fait partie d'un projet que j'ai de désarticuler, de montrer, de comprendre quel est le cadre principal de notre société. Et cette femme, qui n'était pas... Mais combien de femmes ont été dans des mariages qui n'étaient pas, qui étaient arrangés, qui étaient des mariages un peu forcés, et n'ont pas pu vivre.
Des hommes aussi, je crois, non ?
Hein ?
Des hommes aussi.
Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Je pense que dans un cadre rigide tel que vous le décrivez à travers l'histoire de votre famille, il n'y a pas que les femmes qui peuvent se retrouver broyées, mais les hommes aussi.
Oui, bien sûr.
Notamment dans l'histoire de votre arrière-grand-mère, c'est une immense souffrance pour lui aussi, visiblement.
Mais c'est très juste, vous dites. La position du dominant est souvent une position très douloureuse. Il faudra que les dominants le comprennent. Parce que le fait d'abandonner cette domination et d'être dans un système égalitaire, ça apporte à tout le monde. C'est clair que le féminisme ne pourra se développer et devenir le féminisme, disons que la correction du patriarcat ne pourra devenir utile et heureuse que si les hommes y participent, parce qu'ils auront compris tout ce qu'ils pourront gagner dans cette égalité. Mais de toute façon, les rapports entre les hommes et les femmes sont complexes. Hein. On est deux univers extrêmement différents, avec des cultures qui sont à la fois quelquefois organiques et d'autres acquises, très différentes. Donc c'est compliqué de s'entendre, c'est très compliqué. C'est encore plus compliqué dans le patriarcat, disons, voilà. Parce que les femmes sont moins payées, parce que les femmes sont très souvent obligées de rester là où elles ne sont pas heureuses parce qu'il y a des problèmes économiques autrement. Une femme qui se sépare de son mari est immédiatement, même maintenant, déclassée socialement et économiquement. Et tout ça est, voilà, ça c'est une réalité. Mais que les hommes n'en souffrent pas, non, c'est pas vrai, ils en souffrent aussi.
Alors, dans cette histoire familiale, il y a une sorte d'âge d'or. Je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça, mais ce sont si j'ai bien compris, les premières années de votre vie qui sont passées dans une institution très novatrice à l'époque et qui le serait d'ailleurs encore aujourd'hui, centrée sur les nouvelles méthodes éducatives, puisque c'est une communauté, mais centrée sur l'éducation des enfants et inspirée des travaux de Piaget et d'autres, et qui était tenue par Marguerite Soubéran, mais dans lequel un membre de votre famille était partie prenante. Est-ce que vous pouvez nous décrire cet âge d'or qui me semble très fondateur dans votre façon d'envisager la vie et le déroulement de la vie même?
Oui, mais c'était l'école de Beauvallon. D'abord, c'est une école qui a été créée dans les années 30, d'abord par Catherine Kraft et Marguerite Soubéran et Catherine Kraft, puis s'est ajoutée par la suite Simone Monnier, qui était donc ma tante, et qui a été, c'était extrêmement moderne à l'époque. D'ailleurs, je raconte dans le livre que elle a construit elle-même sur ses plans à elle. Elle n'était pas du tout architecte, cette école, en pensant tout le temps à l'orientation sud pour le soleil, pour les gosses, en pensant à toujours que l'habitation, et ça c'est très important pour l'Académie des Beaux-Arts et les architectes, c'est-à-dire que il y a des gens qui ne sont pas architectes, mais qui connaissent très très bien les besoins qu'on a en architecture. Il y a beaucoup d'architectes qui ne connaissent pas les besoins des gens, qui font des maisons qui ne sont que des produits de l'esprit, sans qu'il y ait un véritable intérêt pour ce qui va se vivre là-dedans. C'est pour ça que les villages des paysans sont si beaux, et pourquoi on les admire tant, parce qu'eux, ils sont construits pour la vie dedans, pour la vie des gens dedans. Marguerite Soubéran, elle a construit cette école comme ça, comme une architecte. Et puis à la fin, elle a emprunté de l'argent un peu partout, et à la fin, elle n'a pas voulu finir le toit. Elle a voulu d'abord construire une piscine, ce qui, dans les années 30, était complètement incongru. Personne ne se baignait, à part les bains de mer qui avaient comment. Mais là, c'est une piscine dans la Drôme, c'était vraiment... Et on disait, mais Marguerite, enfin, non. Et elle savait que pour les enfants, difficiles ou pas d'ailleurs, le fait de revenir, le fait de se baigner, de nager, qui est dans l'inconscient, qui est à la fois de revenir à la matrice qui est composée d'eau. Donc, on vit 9 mois dans de l'eau. Et puis, on a aussi l'image que l'eau, c'est l'inconscient. L'eau, c'est là où on peut se ressourcer. C'est là où on peut entrer en communication avec un autre monde. Elle savait, elle sentait, elle théorisait pas forcément, mais elle savait que ça serait important pour l'ego difficile. Donc, elle a construit cette piscine envers et contre tout, qui d'ailleurs n'avait pas de filtration et était vert pomme à peu près 3 semaines après avoir été mis en service, mais ça, jamais on n'a attrapé aucune maladie. C'est encore tout cet hygiénisme forcené qu'il y a maintenant, enfin, on pourrait en parler longuement. Et alors, on lui disait ça. Elle disait, non, mais écoutez, moi, c'est pas compliqué. Si j'ai plus d'argent pour construire mon école, si c'est pour finir le toit, tout le monde me prêtera de l'argent. Si c'est pour faire une piscine, personne ne me prêtera. Donc, on finira la piscine, et quand on n'aura plus d'argent, on demandera pour le toit, et on m'en donnera. Et d'ailleurs, elle a toujours dit qu'elle ne rendrait pas l'argent. Elle a emprunté de l'argent à des gens qui étaient adorables, qui étaient merveilleux, qui croyaient dans son projet. Et parce que son projet était un projet social, elle a dit je rendrai pas l'argent. L'argent sert pour la société. Et si les gens me le prêtent, c'est qu'ils en ont suffisamment. Voilà. C'était pas immoral. C'est un très beau raisonnement. Alors,
c'est aussi une aventure de femme, Beauvallon.
Ah oui. C'est 3 femmes, et c'est 3 femmes homosexuelles. Hein. Et c'est important de le dire aussi, parce que souvent dans l'histoire de Beauvallon, on planque ça. Non, c'est trois femmes qui assumaient sans aucun problème leur homosexualité, et qui, d'ailleurs, et qui étaient... c'était la sécurité sociale, payait les séjours, je veux dire, c'était quelque chose, c'était un endroit parfaitement officiel, et jamais personne n'a posé le moindre problème, parce que de toute façon, pour Marguerite Soubéran, ça ne posait pas de problème. Donc il n'y avait pas moyen que ça pose un problème. Et alors ensuite, ce qui est très important aussi dans l'histoire de cette école, c'est que pendant la guerre, ça a été Marguerite Soubéran était une femme de gauche, était une femme, elle était devenue communiste après la guerre parce que la résistance était principalement communiste à cette époque. Elle a très vite quitté le parti, mais quand ça commençait à se gâter, à devenir vraiment évident que c'était un parti stalinien. Mais pendant la résistance, ça a été vraiment un lieu extrêmement important pour des centaines et des centaines de gens. Et Dieu le fit d'une manière générale. Si vous regardez sur Internet, c'est vraiment, ça a été un centre très important de résistance avec Jeannette Barnier, qui était donc la secrétaire de mairie, qui faisait des faux papiers par dizaines. Et des juifs ont été sauvés, beaucoup, beaucoup de juifs. Il y a eu aussi énormément d'intellectuels, de musiciens, de philosophes, d'écrivains qui sont venus se réfugier là parce qu'ils savaient qu'ils seraient protégés. Et c'est un endroit assez reculé. Les Allemands ne sont pas vraiment venus jusque-là. Ils ont pris des enfants juifs qui étaient cachés dans les fermes. Ils ont réussi à les prendre dans les fermes. C'est là que Marguerite et Simone sont allés les sauver des mains de la Gestapo à Lyon. Mais ils ne sont pas allés jusqu'à l'école. Et ça passait, les juifs, les intellectuels. Et ils venaient. Et alors, il n'y avait pas un sou, hein, bien sûr. La philosophie, c'était on apporte ce qu'on a. Donc il y en avait un qui jouait du basson, il lui donnait des cours de basson. Donc l'école, parce qu'il y avait des gosses quand même dedans, fonctionnait comme une espèce de communauté où chacun apportait sa contribution et tout le monde bossait aussi parce que l'épluchage des légumes, pour 50 ou 70 personnes, il faut quand même du monde.
Ce qui est frappant dans cette aventure, mais aussi dans l'ensemble de votre livre, c'est que au-delà des idées, ou des idéologies, ou des prises de position, ou encore des événements de la grande histoire, et c'est peut-être là où l'artiste et la cinéaste affleurent déjà, c'est que vous vous attachez aux personnes. Toujours aux personnes. Vous ne pensez pas que les gens sont bons ou doivent être admirés uniquement pour leurs idées, mais aussi pour ce qu'ils ont au fond d'eux. Est-ce que je me trompe ?
Oui, non, c'est le côté rousseauiste. Non, c'est-à-dire que on est blindé de contradictions, on n'est qu'une dialectique en marche, nous les humains, donc on est tout le temps entre l'amour, la haine, les bêtises et les choses merveilleuses. C'est pas... Si on voit le monde comme une espèce de mouvement permanent où les contradictions se renforcent, se fécondent et se détruisent, rendent meilleures, etc., on ne peut pas juger les gens, surtout pas comme cinéaste. Je veux dire que si on met des personnages qu'on se met à détester, ben, le public va détester aussi tout ça. C'est négatif. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi les gens sont comme ils sont. Pourquoi ils sont tout d'un coup, pourquoi ils deviennent haineux, pourquoi ils ont toujours des raisons, pourquoi ils deviennent violents, pourquoi tout d'un coup, au milieu de tout ça, ils deviennent d'une générosité, d'un héroïsme frénétique. C'est, la nature humaine est complexe et ça ne sert pas à grand chose de condamner sans savoir, quoi. En tout cas, on peut le faire en politique, pas en art. C'est ça qui différencie l'art de la politique. Si je devais décrire un nazi, je verrais son horrible condition, quoi, dans ce meurtre permanent qu'il doit faire et qui forcément va le détruire quelque part. Ça me fait toujours penser ça à Bach. Quand Bach, dans la Passion, décrit après que Pierre ait trahi Jésus trois fois. C'est quand même fort, mais c'est ce que beaucoup de gens ont fait quand la Gestapo les interrogeait. Beaucoup de gens ont parlé, ou ont dit qu'ils ne les connaissaient pas. Pierre renie le Christ trois fois, donc le Christ part tout seul dans la torture. Pierre, on le laisse tranquille. Et Bach, au lieu de condamner Pierre, écrit ce magnifique air qui s'appelle Erbarmadich, et pitié de moi, où on voit que maintenant, ça va être Pierre et le remords toute sa vie, quoi. Donc c'est lui qui souffrira le plus. Ça, c'est une magnifique contradiction. Et un artiste le voit comme ça. Un cinéaste doit le voir comme ça, doit le voir avec cette humanité.
Vous avez utilisé le terme de magnifique contradiction, que vous avez déjà utilisé, je ne sais pas si vous en souvenez, dans votre discours d'hommage à votre prédécesseur Pierre Schoendorfer, où on lui en disant « Un homme, quoi, avec toutes ces magnifiques contradictions ?»
Oui.
On retrouve ce goût de la justesse dans les quelques textes que vous avez sélectionnés, notamment certaines scénettes de théâtre ou de cinéma, enfin de scénario en tout cas, de dialogue. On retrouve ça beaucoup dans vos dialogues. Mettre le doigt sur les contradictions qui rendent vrai.
Oui. Et puis surtout, un personnage, il devient drôle quand il ne sait plus du tout lui-même qui il est et ce qu'il dit. Quand il est mu par son inconscient, c'est ça le beau travail du dialoguiste, c'est ça, d'arriver à trouver le fil qui est tout sauf rationnel, qui mène les gens. Et le fil qui mène les gens, il est inconscient, il est pas rationnel. Et quand dans un dialogue, on arrive à toucher cette folie qui est... Et ça touche à la poésie. La poésie aussi, la poésie et la musique d'ailleurs sont, et l'humour, je dirais les trois, sont les arts qui permettent dans des formules extrêmement concises et compréhensibles immédiatement de figurer des contradictions. C'est ça le propre de l'humour, c'est d'arriver à dans une blague. D'ailleurs, je disais toujours moi, les concours de la Fémis où on demande Bac plus je ne sais pas combien et des discours compliqués sur le cinéma, le cabras, etc. Moi, je dirais, pour moi, choisir un candidat pour la Fémis, c'est quelqu'un qui saurait raconter une blague vraiment bien. Parce que une blague, c'est une bonne blague, hein, pas une blague idiote, mais c'est comme un très beau vers, quoi. C'est, l'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour. Ça, c'est La Fontaine. Et dans ces simples petits mots, y a tout est dit, quoi. Tout est dit sur la beauté de la nature. Et voilà. Alors, attends, je m'égare, là.
C'est très bien pour l'émission de s'égarer. C'est une émission où il est bon de s'égarer.
Non, je disais simplement que le dialogue et la manière de percevoir un personnage... il n'y a que la théâtre ou le cinéma qui puisse décrire un humain avec cette, ben les romans aussi bien sûr, mais cette complicité qui est drôle parce que les gens sont complètement inconscients, quoi. À partir du moment où un personnage est inconscient de ce qu'il est en train de dire, là, vous touchez au grand comique. Pas au comique verbal avec des petits mots pour rigoler, quoi.
Vous avez parlé d'inconscient, il y a de longues pages consacrées à Freud. Vous nous expliquez de quelle façon il a compté pour vous et dans votre travail d'artiste. Je vous ai déjà un petit peu répondu, mais peut-être faut-il aller plus avant dans ce sillon.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu quelques très très grands penseurs. Bizarrement, ils étaient tous juifs. Dans le siècle, il y a eu Marx, il y a eu Einstein, il y a eu Freud, qui sont vraiment qui ont marqué profondément l'histoire de la pensée, quoi. Et Freud, après, on est d'accord ou pas avec Freud, il a beaucoup foiré dans sa perception des femmes, mais c'est parce que lui-même était dans une telle névrose, etc., avec son père pervers, etc. Mais, et puis l'époque était une époque méprisante pour les femmes, et il a embragué là-dedans sans aucun recul. On ne peut pas le lui en vouloir de ça. Mais c'est fondamental, quoi. C'est fondamental d'avoir. Je dirais que c'est une des grandes, c'est ce que je dis dans le bouquin, une des grandes blessures narcissiques dans l'histoire de la pensée humaine. C'est la première, c'est qu'on n'est pas le centre de l'univers du tout. On est un tout petit machin dans un tout petit truc qui est le Soleil, qui est un tout petit truc dans une galaxie qui est elle-même un tout petit truc dans l'univers. Donc, cette remise en perspective de notre soi-disant pensée tellement importante, tellement scientifique, tellement tout ce qui a été la pensée du XVIIe et du XVIIIe siècle, découverte de la science, découverte de la puissance de la science, tout d'un coup, lui, il nous dit, mais non, votre pensée, oui, la technologie peut-être, mais en tout cas, vous êtes mu par quelque chose d'autre, qui est, alors, on peut appeler l'inconscient, on peut appeler aussi l'inconscient collectif, ou l'histoire humaine collective, je ne sais pas, après Jung et tout ça, il y a eu énormément d'interprétations diverses, mais cette espèce d'affirmation extrêmement importante que la sexualité et l'inconscient sont des forces fortes qui mènent le monde, ça a été une blessure terrible pour les gens, terrible, et ça a été très important, comme Einstein qui a dit l'énergie c'est de la matière c'est de l'énergie, comme Marx qui a dit vous pouvez penser l'histoire comme vous voulez, mais ça sera toujours quand même l'histoire de la matière et de nos rapports sociaux. Ça a été des bouleversements qui n'étaient pas acceptés avant. Je pense que le féminisme aussi est un nouveau, très très grand, une grande blessure narcissique. Et ces moments de rupture de la pensée, ils sont importants pour l'humanité, importants. C'est pour ça que Freud, moi, j'ai été passionné par Freud très jeune. Hugues se fichait de moi en disant alors là, toi, tu lisais ça à 13-14 ans, alors que moi, je lisais le journal de Suzette. J'étais vraiment intéressé par ça, toutes ces découvertes, toutes ces pensées. J'étais très jeune, peut-être trop, mais j'ai énormément lu très très jeune. Et j'étais abreuvé de lecture par ma mère qui, voyant cette soif d'apprendre, me donnait des livres.
Pour montrer votre goût éclectique, vous évoquez aussi Saint-Simon. C'est pas du tout la même frange, si je puis dire. C'est ce qui est plaisant. Hein. C'est un peu comme nous parlons pas mal d'idées dans cette conversation. Je ne voudrais pas que les gens pensent que vous avez fait un livre uniquement de prise de position. Voilà, ce qui fait partie de vous, incontestablement. Mais c'est un livre éclectique où on peut papillonner et on voit l'étendue de votre curiosité. Et c'est pour ça qu'il est agréable pour le lecteur, parce qu'on passe de Bach à Freud, de Freud à Saint-Simon, à des membres de votre famille, à des morceaux de scénario. Cette écriture un petit peu kaléidoscopique mérite qu'on y rentre vraiment pour avoir le tableau complet. Mais revenons-en à Saint-Simon, parce que si vous l'avez évoqué dans un livre qui fait 200 pages, c'est qu'il a quand même compté. Ce n'est pas du hasard.
Ce que je voulais dire à propos du kaléidoscope, c'est intéressant ce que vous dites, c'est que c'était voulu pour moi de pouvoir justement construire un livre on ne sait pas comment le nommer, ce livre. Ce n'est pas une biographie, ce n'est pas un roman, ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas de la philo, c'est l'ensemble de tout ça. Et la forme de ce livre, elle est déjà très libre. Elle est, à mon avis, et dans mes concerts, dans les concerts que je donne comme chef de chœur, je fais la même chose, c'est-à-dire que je prends des chefs-d'œuvre dans toutes sortes dans l'histoire de la musique, et je n'obéis qu'à un seul critère, qui est celui de l'émotion générale d'un concert que je construis, mais qui n'est pas, tiens, je vais parler que des romantiques. Il y a une espèce de méthode, méthodologie un peu coincée dans la littérature, dans la manière dont sont construits les concerts, qui m'énerve. Donc moi, j'ai envie de faire un tout qui soit très très construit mais libre, voilà, qui ne réponde pas à des critères où on te dit ah oui mais là c'est un peu cinématographique, oui mais là c'est du théâtre, mais là oui ben oui oui c'est tout ça, oui j'assume. Alors Saint-Simon, moi je le connais pas tellement, Saint-Simon, personnellement je l'ai pas lu, j'en ai lu des bouts comme tout le monde, non mais c'est j'en ai lu, et c'est une langue extraordinaire, je pense que c'est ça surtout qui a énormément plu à ma mère, qui était vraiment une écrivain et qui était littéraire jusqu'au bout des ongles, qui avait la passion de la langue. Donc elle savait que dans sa vie, elle n'aurait pas le temps de lire Les Mémoires de Saint-Simon, qui sont quand même une œuvre monumentale. Et donc elle s'est dit, j'attaque, puisque je dois rester couchée pendant 8 mois, ou je crois que c'est 7 mois, et ben j'attaque. Elle a attaqué Saint-Simon. Donc je pense que j'ai été nourrie de Saint-Simon par la chair de ma mère, mais c'est une autre manière de dire aussi que quand une femme est enceinte, c'est pas seulement la chair est pensante, la chair est aussi une manière de transmettre des choses grandes, parce qu'on pense toujours que la femme est un espèce de sac d'où sortent les enfants. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Le sac, il est pensant, la chair est pensante. Ça, c'est une grande idée d'Antoinette Fouque, qui est géniale parfois. C'est que ce que transmet la femme par son sang, par tout ce qu'elle nourrit physiquement, ça, c'est la moitié d'un humain, peut-être plus même que la moitié, parce qu'elle transmet aussi les gènes et les programmes informatiques. Mais c'est une manière de dire aussi que ce qu'une mère transmet dans sa chair, ça veut dire aussi que la matière est aussi importante que l'esprit. Ça rejoint Einstein. L'esprit, l'énergie, c'est de la matière. La matière, c'est de l'énergie. C'est de l'information. Et c'est important, autant important. Ce que dit d'ailleurs Marx aussi, la matière, la dialectique, Marxisme, c'est que la matière, il ne faut pas l'oublier. Beaucoup de philosophes, beaucoup de penseurs ont tendance à l'oublier.
Oui, peut-être particulièrement en France, mais...
Ça, je ne vous le fais pas dire.
Mais notre conversation met en lumière quelque chose. Le livre est traversé par quelques charges, et notre conversation aussi contre le patriarcat. Mais finalement, au-delà, bien plus au-delà, plus haut et plus de façon plus fondamentale, j'ai le sentiment que c'est un livre contre le dualisme, voilà, contre tous les dualismes, avec une forte volonté de réconciliation. Et c'est pourquoi il est baigné d'une certaine bienveillance, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de monter les uns contre les autres, mais il y a une forte volonté de réconciliation et de retisser des liens et du commun avec une quête d'harmonie.
Oui, c'est très gentil de dire ça, mais c'est très vrai. C'est très vrai, parce que j'ai des grandes... colère, des grandes indignations, et je peux être très très dur dans la manière dont je les exprime, mais je suis aussi quelqu'un qui cherche l'harmonie, qui cherche à la créer autour de moi. Et je dis toujours, quand j'ai fait mes films, c'est vraiment, j'ai essayé toujours de faire des bulles de paradis. J'ai fabriqué beaucoup de maisons aussi, je crois que j'en ai fait 28 en tout. Et je suis aussi architecte et décoratrice, et parce que ça aussi c'est une œuvre que les femmes font beaucoup, et qui n'est jamais compté comme une œuvre. Mais j'ai toujours voulu créer des bulles de paradis autour de moi, pas pour lutter contre le monde, mais pour montrer que ça existe, Et ça, ça a été vraiment beaucoup Beauvallon qui m'a appris que même dans un monde de fascisme et de collaboration, une bulle de paradis peut exister et qu'elle émet des énergies qui vont être réparatrices.
On parle beaucoup aujourd'hui de monde d'avant et de monde d'après. Je suis désolé, c'est presque maintenant un cliché s'agissant de vous, mais vous avez été admiré notamment par votre capacité à saisir les mutations à l'œuvre dans la société, les mutations profondes. Mais je vois que ça, peut-être déjà ça vous agace que je vous remette dans...
Non, mais
c'est la vérité. Si les trois films que j'ai cités en introduction, Trois hommes et un couffin, La crise ou La belle verte ont été aimés, c'est notamment pour cela, parce qu'ils révélaient des forces profondes à l'œuvre dans la société. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'interrogations sur ce qui se produit, sur la rupture qui a peut-être représenté cette crise. Comment envisagez-vous, ressentez-vous les forces à l'œuvre aujourd'hui ?
Oui, c'est vrai, j'étais en avance, je ne sais pas en avance sur quoi, mais bon, c'est pas pour... J'ai pensé les choses quelquefois un peu en avance sur ce qui... Des fois, pile dans le bon moment. Par exemple, Trois hommes et un couffin, ça a été pile au moment où ça pouvait être entendu et être conscient que les hommes avaient aussi une fonction, non pas paternaliste, mais paternelle, extrêmement puissante et extrêmement bénéfique. Et que quand on la laissait éclore, cette force, c'était formidable pour eux, et bien sûr pour les enfants et pour le monde. Ça, c'était une chose qui était très... était au bord d'être comprise et qui a tout de suite été, comment dire, avalée par la société et comprise, pour la crise aussi. Mais pour La belle verte, ça a été plus compliqué parce que ça avait plutôt 20-25 ans d'avance. Donc, ça n'a été compris que 15-20 ans après. Ce que j'essayais de dire là, c'était d'avoir un nouveau regard, et ça rejoint la question que vous allez me poser sur le regard sur l'humanité, d'avoir un nouveau regard sur notre place dans cet univers, avec tout ce qu'on sait, ou ce qu'on ne sait pas encore, mais d'avoir la modestie de comprendre qu'on fait partie de cet univers, on n'est pas au-dessus, ailleurs, autrement, on est absolument comme une plante, comme un animal, pas plus, pas moins, et ça n'est pas une manière de nous rabaisser, c'est une manière de dire la conscience. Donc on glorifie tellement notre conscience, notre capacité technologique, tout ça, cette conscience n'est que... Ça peut d'abord nous avoir nui, pas mal, parce qu'il y a des races ou des espèces qui n'ont pas cette conscience, ou en tout cas qui n'ont pas la même que nous et qui se portent très 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 bien. On ne se porte pas tellement bien, nous, c'est le moins qu'on puisse dire. On a quand même actuellement pratiquement 1 milliard de gens qui meurent de faim. Peut-être après cette crise, 1,5 milliard. Il y a aussi des parties de la société qui vivent bien, qui sont heureux. Il y a quand même une tendance à la suprématie de certains sur l'appauvrissement d'autres. Et là, je parle simplement d'un équilibre écologique. Je veux dire, c'est pas une espèce qui est capable de se massacrer au point où on le fait, c'est qu'elle va pas très très bien. Après, ce qui va se passer après cette crise-là, est-ce qu'il faut la voir avec un œil de complotiste ? Est-ce que c'est pas quand même une manière de ce confinement, de contrôler les gens, de réparer ou en tout cas prévenir et empêcher des mouvements sociaux très 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 violents, très importants. Avant la crise du corona, on avait dans le monde entier, je ne vous parle même pas des gilets jaunes, une énorme besoin de changement. Là, tout a été muselé. Est-ce qu'on pourra museler ? C'est comme exactement le même processus dans l'inconscient. Vous refoulez, vous refoulez, vous refoulez, et plus vous refoulez, quand ça va sortir, ça va être un volcan phénoménal. Est-ce bien nécessaire ? Était-ce bien nécessaire ? On nous a expliqué que les masques étaient stupides, inutiles, et que d'abord il fallait être quasiment académicien ou avoir une agrégation pour pouvoir les mettre, hein, parce que c'était très compliqué. Non, on l'avait entendu comme moi, ça. Donc, oui, on était là, on était, mais n'importe quoi. Et maintenant, on nous reconfie. Est-ce que c'est pas qu'on veut nous museler, hein? Je sais pas. C'est une maladie grave qui a touché principalement des personnes âgées et déjà malades, qui a fait moins de morts que la grippe d'il y a 2 ans. Et que, alors je ne parle même pas, de la grippe asiatique, enfin espagnole. On a compté énormément de gens qui n'avaient pas le corona, on les a fichus dans le corona pour pouvoir. On a nié l'extraordinaire savoir d'un de nos plus grands scientifiques, Didier Raoult, qui est un homme extraordinaire, qui est un homme qui a pris encore le temps et l'énergie de parler partout, pour dire sa vérité, et qu'on a tout ça pour des intérêts de fric de laboratoire, tenté de démolir, alors que c'est notre plus grand scientifique, il est reconnu dans le monde entier. Il n'a pas cherché à avoir le pouvoir, il a cherché à expliquer les choses. Il veut sauver des gens, ce type-là. Mais on a divisé la France en deux, les pour et les contre Raoult. Non, on va être pour et contre la guérison d'une maladie difficile, dure. Alors, la crise d'après, la crise, ça ne va pas être seulement la crise. Il va y avoir une énorme crise économique, il va y avoir des morts et des blessés sur le tapis. Est-ce que c'est ça qu'on voulait ? Est-ce que finalement c'est pas ça qu'ils voulaient ? Parce que on démolit les petites entreprises pour que les grosses grossissent plus encore. La société a besoin de beaucoup plus de démocratie. Les gens se foutent complètement des élections, c'est quand même grave ça. Il y a 60%, plus de 60% des gens qui n'y vont pas. Pourquoi ? Ça va pas ça. On a besoin de représentativité réelle. Les gens ont beaucoup plus peur. Les gens n'ont pas tant peur du terrorisme. Ils ont peur des hommes politiques et de ce que les hommes politiques vont leur apporter comme misère de plus. Et moi, c'est ce que je vois, c'est qu'à force de ne pas entendre ce que dit soi-disant la France du bas, enfin attendez, c'est tous les gens, quoi. À force de ne pas entendre ça, je ne vous dis même pas comment le volcan va exploser. C'est quand même dommage qu'on en arrive à une situation qui va être quasiment de guerre civile ou révolutionnaire, violente, comme on a connu en France, et vraiment, parce que quand les Français se mettent à être violents, ils sont violents. Alors que tout ça, on est en train de défendre des intérêts qui sont purement économiques, de banques, de financiers et grosso modo de laboratoires pharmaceutiques qui sont tout puissants. Donc, moi, voilà ce que je pense. Après, et puis les gens ont obéi comme des moutons à tout ça, quoi. Est-ce qu'on est une France de moutons ou est-ce qu'on est capable de réfléchir Vous vous rendez compte qu'ils ont interdit la nivaquine, la chloroquine, c'est n'importe quoi. On interdit. Moi, je suis allé en Afrique plusieurs fois pour les présenter mes films. J'ai pris de la chloroquine 3 semaines avant, 3 semaines pendant, 3 semaines après. Je sais pas, je suis en pleine forme, hein. Je suis en bonne santé, moi. Hein. Non, tout ça c'était du pipeau. Et il faut vraiment que les Français se réveillent, prennent des précautions s'il faut pour pas attraper cette maladie. Ok. Enfin, de là à mettre la France à genoux, je sais pas. Je suis pas très d'accord avec ça parce que on a besoin de continuer à travailler, à exister. Bon, c'est quand même pas de la culture, nous. Mais nous, disons qu'on n'est pas essentiel. Ne soyons pas narcissiques. On n'est pas essentiel. On est en fait essentiel. Mais on peut dire que il faut penser aux autres franges de la société qui sont, je sais pas, tout le tourisme, les magasins, toute la vente, la France est un pays de restaurants et de bistrots. Enfin, tous ces gens-là vont être en faillite. Est-ce que c'était vraiment ça qu'il fallait faire? Est-ce que c'était ça qu'on voulait? Je pose des questions, hein. Moi, je n'ai pas forcément des réponses. Mais les réponses que j'ai entendues venant d'en haut, les masques, c'est un geste technique, ouais. Les masques, on n'en a pas. Bon, maintenant, tout d'un coup, c'est obligé de les mettre. On nous dit que... Mais essayons la chloroquine. Lui, machin, Macron, il va voir Raoult, il parle avec lui. Et il dit, non, non, la science dit, mais la science de quoi? On sait, la science de qui? Enfin, la science, on sait bien qu'elle est en mouvement. La science, elle est tout le temps en train de retrouver des choses, de comprendre, de dire, là, je me suis trompé. On peut avoir la modestie de dire, on s'est trompé. Ils n'ont pas de modestie de dire, j'ai trompé. Ils sont à la solde des grands labos pharmaceutiques qui vont produire des vaccins, qui on sait même, et les produiront tellement vite qu'on ne sait même pas ce qu'il y aura dedans. Il y aura surtout un truc pour nous, avec des puces, pour encore plus nous contrôler.
Ça, c'est long terme, oui.
Voilà. Bon, j'ai dit ce que je pensais de cette crise.
Oui. Est-ce qu'au même moment, quand je pense à ça, c'est pas seulement sur la gestion de la crise, mais est-ce que vous ne sentez pas également des nouvelles façons de voir, d'appréhender la vie et le monde, qui auraient pu naître à cette occasion ou qui pourraient se développer de sa suite? Je pense notamment que nous étions dans une société quand même extrêmement trépidante, fondée sur la vitesse, sur les flux, sur le changement, et que ce temps de latence a peut-être pu être aussi une occasion de se poser, de réfléchir, de regarder la beauté du monde ou les arbres, comme vous le faites souvent. C'est d'ailleurs assez touchant. C'est presque animiste, hein, votre façon de regarder les arbres ou les pierres. Tout ça a pu naître aussi, cette occasion, non?
Oui, mais bien sûr, dans toute... c'est la fameuse dialectique. Dans toute situation dramatique, il y a aussi le bon côté. On va quand même se calmer, ça a eu le bon côté chez les bourgeois dont nous sommes, hein, c'est-à-dire que, ou enfin en tout cas les gens qui avaient la capacité d'être à la campagne. Les citadins pauvres étaient scotchés dans 30 mètres carrés et là ça n'a pas été drôle. Et ça n'a pas été drôle aussi parce qu'il y a eu des violences énormes, les violences conjugales ont explosé littéralement, il y a eu probablement des blessés, des morts et des traumatismes à vie. Mais c'est vrai aussi, c'est très vrai ce que vous dites que l'arrêt de cette frénésie de consommation, de cette frénésie tout court, a été très, 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 très bénéfique. Tout d'un coup, on s'est mis à faire l'essentiel de ce qu'on avait envie de faire, puisqu'on pouvait le faire chez soi. Il y a aussi le fait qu'on a vu l'explosion des ventes des maisons à la campagne. Ça a été un truc phénoménal sur le plan immobilier. Ils n'ont jamais bossé comme ça. Les gens veulent quitter la ville, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ils veulent quitter la ville et que le territoire puisse se repeupler intelligemment plutôt qu'avoir cette espèce de mégapole où on vit très mal, où la pollution est effrayante. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Mais c'est vrai que le télétravail, ça va pour les gens qui sont dans le service ou qui sont dans. Qui peuvent bosser sur un ordinateur, mais si vous ne pouvez pas faire du télétravail quand vous êtes plombier ou quand vous gardez des moutons, hein, mais là justement vous êtes à la campagne donc ça va. Mais il y a beaucoup de métiers qui ne peuvent pas faire du télétravail comme par hasard, ce sont les métiers sans beaucoup de qualifications, etc. Donc il y a aussi toute une manière de repenser la ville et la vie dans la ville. Moi je pense que là c'est pas mal ce qu'elle fait. Notre chère maire de Paris, de revégétaliser à fond la ville. Et moi, j'irai plus loin, je pense qu'il faut, dans les banlieues où il y a tant de problèmes, revaloriser l'origine des gens. Parce que beaucoup de gens qui viennent d'Afrique et du Maghreb sont des enfants ou des petits-enfants de paysans. Mais les paysans, c'est le métier le plus noble au monde. Et on leur a mis dans le crâne que c'était le métier le pire. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tout le monde devienne paysan, mais il faut qu'on puisse être deux choses. On peut être paysan et informaticien. On peut travailler à se nourrir sur un bout de terre près de chez soi pendant quelques heures par jour. Et si on est nombreux à le faire, ça marchera très bien. Et par ailleurs, je ne sais pas, travailler sur des maths ou faire des ou enseigner. Je veux dire, il y a une espèce de redéfinition qu'il faut absolument faire. De ce que c'est que l'activité humaine. On est fait pour... Et les femmes, c'est pour ça, les femmes, elles ont plus l'expérience de ça, parce qu'elles sont tout le temps multiformes dans leurs activités. Elles peuvent torcher un gosse, elles peuvent faire de la cuisine, après organiser tout un foyer, ensuite s'occuper du fric. C'est des gestionnaires, hein, les femmes. C'est les mêmes qualités qu'il faut pour diriger un pays ou diriger une une ville, hein, c'est savoir qui donne quoi, qu'est-ce qu'on fait de ci, organiser la vie. Les hommes peuvent le faire aussi, mais les femmes sont beaucoup plus dans la malheureuse culture dans laquelle on est. C'est pas que je dis que c'est bien, mais en tout cas, le fait qu'elles soient souvent attachées à ces tâches-là fait qu'elles sont multiformes. Et donc, elles peuvent aussi devenir, elles sont des intellectuelles excellentes. Et puis, dans leur ventre, elles fabriquent de la chair, ce dont je parlais tout à l'heure. Donc, je pense qu'il faut repenser aussi l'activité humaine. Et par exemple, Trois hommes et un couffin, je suis sûre que ça a joué ça aussi. Le fait que ça soit beau de prendre un gosse, de le torcher, de s'occuper de sa bouffe, de repasser ses vêtements, et c'est pas seulement entre les hommes et les femmes que ça doit se passer. C'est que il faut plus qu'il y ait d'hierarchie dans les tâches. Voilà. Nourrir les gens, travailler la terre, c'est quelque chose qui donne une force, une énergie et le sentiment d'exister pour quelque chose. On a les doigts dans la prise, dans un truc bien, quoi. Et je pense que ça aussi, il faudrait le travailler sur les banlieues, mais il faudrait le travailler pour toute la société.
Oui, c'est ce que je voulais vous dire, parce que la dévalorisation du monde paysan n'est pas réservée
Non.
Aux populations d'origine immigrée. On a quelque sorte quelques 70 ans d'avance.
Ah oui, non mais c'est clair. Ça, c'est une insulte, hein, paysan, c'est une insulte. Hein. Alors que c'est eux qui font le pays, c'est les paysans. Donc c'est ça aussi, mais ça vient tout doucement avec justement le confinement. Là où vous avez raison, c'est que le confinement a tout d'un coup, on s'est dit, mais qu'est-ce que je fous dans ce 30 mètres carrés sans lien, avec l'espèce de lien organique dont on a totalement besoin. On n'est pas conscient qu'on en a besoin, mais on a besoin de voir des plantes pousser, d'être avec du verre, de le toucher, de le sentir. On a besoin, mais vital, de ça.
Certainement, c'est probablement d'ailleurs pas un hasard que le vote écologiste cartonne dans les grandes villes où l'on est privé de nature, mais est un succès relatif dans les campagnes, sauf dans la Drôme, et pour des raisons certainement de sédimentation de population, voilà, sauf dans les campagnes où on vit déjà dans la nature, donc le manque est moins ressenti.
Oui, le vote écologique, c'est ça, c'est que c'est retrouver le lien à la nature, mais c'est pas théorique. Je pense qu'on est malade de ce manque de lien.
Ah non, je pense que c'est une situation d'une frustration.
Oui, une frustration, mais une frustration qui a des conséquences physiques très très graves, c'est-à-dire une explosion des cancers, une explosion des maladies incurables et une explosion du mal-être physique et mental de notre société, hein, de l'humanité. Et voilà, je pense que c'est cette révolution-là qu'il va falloir repenser tout tranquillement. Ça ne se fera pas vite, mais je ne sais pas si les dirigeants actuels sont conscients de cette direction. L'écologie, ce n'est pas seulement des éoliennes, machin, c'est aussi notre rapport à nous intérieur, c'est notre santé. Je pense que les gens ne parlent pas tellement de la santé des humains. Moi, j'en parle tout le temps parce que je ne vois que des malades autour de moi. C'est essentiel, la santé.
Mais il ne dit pas seulement la santé physique.
La santé physique. Mais la santé physique, elle dépend de la santé morale, qui dépend de la santé physique, etc. Là aussi, on est de nouveau dans une dialectique. Mais si vous n'avez pas de santé physique, comment voulez-vous avoir une santé, enfin, par exemple, enfin, moi je ne sais pas, mais à l'Élysée, on mange bio. Moi je sais, ça m'est arrivé de manger pour représenter les copains du cinéma. Soit à la cantine dans les salons du Premier ministre, Dieu sait quoi, qu'est-ce qu'on mange bien, quoi. Mais pourquoi on ne mange pas aussi bien dans la cantine de Pétaouchnok ou du 14e arrondissement, pourquoi? Et c'est là qu'il faudrait que les gens mangent bio. Il y a une espèce vraiment d'inégalité insoutenable dans le fait que nos enfants, les aînés, les malades, ne sont pas nourris correctement. Ils sont nourris de manière totalement industrielle. Mais c'est quoi ça? Alors que quand tout le monde sait très bien et tout le monde veut manger bio et local et bon, des bonnes tomates et tout, et que ça... Oui, mais d'accord, mais tout le monde alors. Mais parce que la santé, moi, c'est pas juste une question d'égalité. C'est parce que si toute une population est nourrie comme ça, avec des trucs pourris, vous les sentez déjà, vous n'avez pas envie de les manger. vous avez déjà mangé la bouffe d'hôpital, enfin, je veux dire, la bouffe des EHPAD, quoi. C'est grave, quoi. Vous le voyez arriver, déjà, ça pue dans tout le réfectoire, parce que c'est de la bouffe bourrée de conservateurs, bourrée de saloperies. Et c'est normal, ça? Alors, bon, ok, on est dans une civilisation du tout utile, hop, on s'en fout pour les EHPAD, hop, on s'en fout pour les malades, ils sont malades. Enfin, au moins les étudiants et les enfants des écoles, quoi, au moins nourrissez-les correctement, qu'on ait une société saine. Mais ça, c'est marrant, c'est un truc, il y a que moi qui dis ça, j'ai l'impression.
Non, je pense qu'une fois de plus, vous percevez quelque chose qui est en route, un peu souterrain, une aspiration et qui est profonde. Je pense que la volonté de réconciliation que vous exprimez avec votre fougue bien connue est quelque chose qui, j'en suis persuadé, je le dis pour vous rassurer, je pense, est là. Elle s'exprime, mais elle ne s'exprime pas nécessairement dans la forme jacobine que nous aimons tant. Mais il y a des tas de choses qui se passent de façon par rhizome.
Absolument.
Et beaucoup de préoccupations que vous exprimez dans votre livre, en fait, rentrent en écho avec la société. C'est pourquoi je pense que beaucoup de gens y trouveront, voilà, du grain à moudre, justement. Du grain à moudre. Parce que je vais vous donner mon interprétation en fin des trois parties. Il y a cette partie où vous exprimez d'où vous venez. Voilà, rendons grâce à vos aïeux, ce qu'ils vous ont apporté, à vos racines. Et c'est important d'avoir des racines et des repères, ça évite d'être manipulé, je pense. C'est l'un des enjeux. Lorsqu'on a des points fixes, on voit quand tout dérive. Lorsqu'on n'a pas de points fixes, on flotte. La seconde partie est plutôt consacrée à ce que vous faites, et nous sommes aussi voilà, des êtres faisants, comme vous le disiez, qui fabriquent. Et puis la troisième partie, des prises de position, parce que de fait, une partie de la vie, c'est aussi de prendre position, comme vous le faites en cette fin d'émission, et en vous indignant. Et c'est très bien de s'indigner aussi, mais c'est également bien de faire et de rendre grâce. Et pour conclure, pour amoindrir la véhémence de vos propos, parce que c'est bien d'être véhément, de poser des questions, de s'indigner, mais pour qu'il n'y ait pas de malentendu sur l'ouvrage, c'est avant tout un ouvrage de gratitude à l'égard des gens, à l'égard des ancêtres, à l'égard de la nature, et à l'égard de toute chose, et probablement de la beauté, tout simplement.
Et à l'égard des artistes, hein, parce que les deux grands passages sur Bach et Rembrandt, c'est très très important aussi. Vous avez raison, c'est de la gratitude et puis c'est de l'amour pour ce monde. Parce que si on n'a pas d'amour pour ce monde, on n'a pas l'envie d'en montrer les beautés ni les laideurs. C'est par goût de la vie, vitalité, que j'écris ce que j'écris et que je regarde le monde avec énormément de bienveillance, vous avez raison, et d'humour aussi.
C'est vrai. C'est pourquoi j'invite nos auditeurs, car le temps, et là c'est échu, on aurait pu continuer comme ça toute la matinée, car nous sommes dans une matinée, jusqu'à midi, mais ce n'est pas possible. Nous respectons la grille de programmation, mais cette conversation peut se poursuivre, car c'est un livre de conversation avec lequel on rentre dans une dialectique, et donc j'invite nos auditeurs à s'y plonger. Hashtag Colline Serrault aux éditions Actes Sud. Merci encore, madame.
Merci beaucoup à vous, merci. Thank you.